Ce soir, nous recevons Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm est né en 1917 à Alexandrie, en Égypte. Il a fait des études d'histoire à Cambridge University. Il est actuellement professeur émérite et dans sa carrière, entre 1947 et 1982, il a été lecturer, puis reader et enfin professeur depuis 1971 d'histoire économique et sociale à Birkbeck College à l'Université de Londres. Je mentionnerai d'autres aspects de sa carrière. Entre 1978 et 1983, il a été directeur de recherche associé invité à l'EHESS à Paris. En 1982, il a été professeur invité au Collège de France et entre 1984 et 1998, il a été professeur d'histoire politique et sociale à la New School for Social Research de New York. Il est historien, spécialiste d'histoire économique et sociale. Il est président de la Society for the Study of Labor History, membre de la British Academy et de l'American Academy of Arts and Science. Enfin, je mentionnerai ses publications. Elles sont nombreuses et extrêmement bien, enfin, je pense très bien traduite en français. Donc, je me contenterai des publications qui ont été traduites en français. Tout d'abord, Les primitives de la révolte dans l'Europe moderne. Puis, mais je pense qui est épuisé actuellement, Les histoires sociales du jazz. Enfin, L'ère des révolutions, qui est paru en 1962 en français chez Fayard et qui a été réédité chez Hachette. L'ère du capital. Paru également en poche chez Hachette, qui était publié au début en 1975 en français. L'ère des empires, qui est paru chez Hachette en 1987. L'âge des extrêmes, paru en 2000 aux éditions Complexe. Il a écrit également Histoire économique et sociale de la Grande-Bretagne. Il a écrit aussi Bandit, qui a été traduit, qui a été republié récemment en français. Et parmi les derniers ouvrages, je mentionnerai aussi Les enjeux du XXIe siècle, qui est paru en 2000 aux éditions Complexe, et son dernier ouvrage, qui est une série d'entretiens avec Claude Kiegemann, entretien donné à France Culture, et qui est paru aux éditions L'Aube Intervention, s'appelle Eric Hobsbawm, l'historien engagé. Eric Hobsbawm, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra un court débat. Je vous remercie.
Mesdames, Messieurs, ce soir, j'ai l'honneur d'inaugurer la partie de notre Université de tous les savoirs consacrée à la perspective sur un monde global et éclaté. Qu'on se propose de commencer cette tâche par un coup d'œil sur l'histoire, quoi de plus naturel? Mais nous voici à l'ouverture même de cette conférence en face de deux questions fondamentales. Quelle histoire? Quelle perspective? Car 1945, c'est évidemment un tournant dans l'histoire politique de l'Europe et par conséquence dans celle des structures politiques internationales. Ce qu'on pourrait appeler la guerre mondiale de 30 ans du XXe siècle finit avec le suicide d'Hitler et les bombes de Hiroshima et Nagasaki. Mais ce ne fut pas seulement la défaite de l'Allemagne et du Japon, mais ce fut aussi la fin de la Grande-Bretagne et de la France comme puissance mondiale. 1945 fut donc la fin des deux siècles d'histoire politique mondiale dominée par les ambitions et les rivalités d'une poignée de grandes puissances, presque toutes, en l'occurrence, situées en Europe. Depuis le XVIe siècle, les marins et les soldats des États de l'Europe, suivis par leurs colons, avaient conquis et gouverné d'énormes étendues du monde. Bien que, vers la fin du XIXe siècle, la mode des territoires d'outre-mer sous contrôle direct des métropoles avait cessé d'être uniquement européenne, avant la Deuxième Guerre, les drapeaux européens avaient toujours flotté sur l'écrasante majorité des territoires coloniaux et dépendants et sur les populations qu'ils habitaient, c'est-à-dire sur à peu près toute l'Afrique et l'Océanie, sur les centaines de millions de l'Asie du Sud et du Sud-Est, des parties du Moyen-Orient et même aux marges des Amériques, décolonisées depuis longtemps. La fin de la prédominance européenne impliqua donc aussi la fin des empires coloniaux dans le monde. Bref, 1945, ce fut la fin de l'histoire traditionnelle et eurocentrique, celle des manuels de lycée d'avant-guerre. Mais ce ne fut pas la fin de l'ancienne habitude d'axer l'histoire mondiale autour des ambitions et des rivalités des puissances, de leurs alliances, ruptures et conflits. Au contraire, si vous demandez à la personne mayenne, je suppose à la majorité de ceux réunis dans cette salle, quel est le thème central de l'histoire depuis 1945, on me répondra sans doute, jusqu'à la chute du mur de Berlin, c'était la guerre froide. Mais la guerre froide, ce n'était que le vieux jeu de la politique internationale des États nationaux, réduite à deux joueurs, les superpuissances, dont une, l'URSS, était euro-asiatique, et l'autre, les États-Unis, se situait entièrement en dehors du vieux monde. En effet, l'ancienne histoire du système international dont j'ai parlé au début ne prend fin qu'avec la mort de l'URSS et par conséquent avec la déstabilisation d'un monde sans système international, un monde éparpillé qui, au cours des années 90, se montre au-delà des forces de la seule grande puissance qui subsiste pour le moment, c'est-à-dire au-delà des forces des États-Unis. Bien sûr, au temps de la guerre froide, chaque superpuissance avait une forte coloration idéologique. Chacune des deux représentait une révolution qui se considérait un modèle pour tout le monde et donc, dans les deux cas, un système aux ambitions globales théoriquement incompatibles avec la survie de l'autre. Chacun se considérait le bien aux prises avec le mal, et la guerre froide, par conséquence, ressemble un peu à une guerre de religion, évidemment avec idéologie laïque plutôt que religieuse. La guerre de froide ne mobilisait pas seulement les diplomates, les guerriers et ce qu'un président américain nomma le complexe militaro-israélien industriel. Ça, c'est un lapsus freudien, non? Mais aussi d'énormes quantités, les fanatiques, les idéologues, les propagandistes qui, pendant les décennies de la guerre froide, rendaient plus difficile le maintien de la paix et qui continuent à obscurcir le champ de l'histoire contemporaine. Mais n'oublions pas que ce fut un diplomate américain sans passions idéologiques, George Kennan, qui, en 1946, esquissa les bases de la stratégie poursuivie par les États-Unis de la guerre froide, le containment. Et ne sous-estimons donc pas le rôle de la diplomatie à l'ancienne dans la guerre froide. D'ailleurs, ce fut en partie grâce à elle que les deux superpuissances, armées jusqu'aux dents, prête à déclencher les opérations militaires d'un moment à l'autre pendant presque un demi-siècle, ne nous ont finalement pas lancé dans la catastrophe d'une troisième guerre mondiale. Voilà le problème. Selon les questions qu'on pose, L'historien peut dater, peut prendre la date 45 comme l'indication de la fin ou du début d'une époque austroque, ou bien elle peut se situer quelque part au milieu d'une période, d'un processus beaucoup plus large. Bref, comme toutes les périodisations de l'histoire, celle-là froisse l'arbitraire. Eh bien, l'historien qui vous parle ce soir est prêt à soutenir la thèse que le milieu du XXe siècle, en effet, signifie un tournant important, significatif, qu'il constitue la rupture peut-être la plus importante dans l'histoire humaine depuis 10 000 ans. Mais je soutiens cette thèse pour des raisons bien loin de l'histoire traditionnelle. Les voici. Bien que le XXe siècle a massacré les êtres humains à une échelle jamais imaginable auparavant, la multiplication du genre humain au cours de ce siècle est aussi sans précédent. Et c'est surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que cette révolution démographique a eu lieu. Qui est plus ? Au courant du XXe siècle, la production matérielle du monde, c'est-à-dire sa richesse potentielle, s'est accrue comme jamais auparavant. Ce qui explique d'ailleurs que le globe de l'an 2000 soit capable de nourrir 6 milliards d'humains qui, dans l'ensemble, ont la taille, le poids, la duration de vie largement supérieure à celle des générations antérieures. C'est-à-dire, dans le demi-siècle passé, la quantité des humains qui vivent sur cette terre s'est presque triplée. Mais c'est surtout dans les 30 ans qui suivent la Seconde Guerre que cette richesse, le produit brut social du monde, a augmenté à un rythme absolument inouï, à un taux plus que le double de celui des époques les plus florissantes du passé, selon les estimations de l'admirable M. Madison. Les conséquences sociales et culturelles de ce bouleversement économique et démographique ont été absolument extraordinaires. Nous sommes en train de les vivre. Le début du dernier demi-siècle a donc inauguré les transformations les plus rapides et révolutionnaires jamais vues dans l'histoire du globe. C'est le moment où le rythme effréné du changement dans lequel vit notre monde s'est établi. Dans cette perspective, une périodisation qui privilégie 1945 ou n'importe quelle date qui symbolise le milieu de ce siècle est donc légitime et je l'adopte volontiers. Est-ce qu'il y a des liens entre cette accélération brusque, dramatique, absolument sans précédent dans l'histoire du genre humain, et les événements politiques du XXe siècle qui sont au cœur de l'histoire traditionnelle, l'époque des guerres mondiales qui prend fin en 1945, la guerre froide. C'est un problème historique encore à résoudre, mais quoi qu'il en soit, il faut d'abord situer ce moment sur la route du passé au présent dans un cadre historique plus large. Impossible de comprendre ce qui se passe dans le monde après 1945 sans se rendre compte que la Seconde Guerre n'avait été qu'un dernier élément dans cette ère de catastrophe qui commence à Sarajevo en 1914. Ce sont les décennies qui avaient vu un véritable effondrement de la société, de la civilisation, du capitalisme bourgeois et libéral de l'Occident et surtout de l'Europe. une trentaine d'années durant, ont trébuché d'une calamité à l'autre. Deux guerres mondiales et totales d'une barbarité au-delà des cauchemars du XIXe siècle furent suivies par deux vagues de rébellions et des révolutions à l'échelle mondiale. Au milieu du XXe siècle, un tiers de la population mondiale vivait en régime communiste. La plus profonde crise économique mit à genoux les économies capitalistes les plus fortes, y compris les États-Unis eux-mêmes, bien qu'elles fussent à l'abri des guerres et des révolutions. Entre 1917 et, disons, 1942, les institutions de la démocratie libérale disparurent pratiquement du monde, sauf en Amérique du Nord et aux marges de l'Europe et de l'Océanie. Des mouvements néo-barbares, bafouant les valeurs des Lumières, progressaient. Sous le commandement d'une Allemagne hitlérienne vouée à la guerre, un formidable front commun des fascismes, de ses alliés et satellites, furent à deux doigts de la conquête totale du vieux monde. Ce ne fut qu'une contre-alliance paradoxale du capitalisme libéral avec le communisme, tous les deux également menacés par ce front, également contraints par Hitler à se battre. Cette contre-alliance réussit finalement à éliminer l'ennemi commun. Et en Europe, ce fut surtout grâce aux efforts et aux sacrifices gigantesques de l'Armée rouge. Et par conséquence de ces sacrifices, la guerre terminée, l'URSS se trouve en ruine, mais elle était aussi devenue la plus grande puissance militaire sur le continent eurasiatique. Elle se trouve à la tête d'un bloc de régimes communistes en Europe et en Asie orientale et sud-orientale, porté au pouvoir par les forces indigènes de libération ou par les armes de l'Armée rouge. De l'autre côté, grâce à la guerre aussi, les États-Unis, loin des batailles, avaient regagné cette force monumentale de leur production qui avait déjà dominé l'économie globale du monde industriel avant la grande crise, mais qui a été pour un moment, enfin, interrompue par la grande crise. En 1945, les États-Unis représentent la moitié de la production d'une économie mondiale, bien que chancelante. Les États-Unis sortent donc de la guerre comme une puissance globale et hégémonique. Mais, en Europe, Washington se trouve à la tête d'un bloc de pays affaiblis, dans un continent en ruine, politiquement radicalisé et qui semble au bord des convulsions sociales. Sur le reste du globe, sauf peut-être dans sa chasse gardée traditionnelle, l'Amérique latine, Washington rencontre un raz-de-marée de soulèvements de libération nationale, sociale et surtout anti-impérialiste, dont le plus formidable, dirigé par un parti communiste, fut à la veille de prendre le pouvoir sur l'immense Chine. Mais ce qui se prépare n'est pas la lutte finale entre capitalisme et révolution sociale, c'est-à-dire la guerre mondiale entre les États-Unis et l'URSS, mais la guerre froide, c'est-à-dire la paix en permanence entre les superpuissances. Sans doute, l'équilibre nucléaire invite tout le monde à la prudence, car du moment que tous les deux disposaient d'un armement nucléaire, la guerre impliqua le double suicide des belligérants, ce que les Américains appellent la destruction mutuelle certaine, dont l'acronyme en anglais est MAD, ce qui veut dire cinglé. Ni Washington, ni Moscou étaient prêts à courir ce risque. Mais au fond, ce ne fut pas simplement l'équilibre de la peur qui maintint la paix entre les deux grands, mais le fait que, selon les anciens critères de la vie internationale, ils n'avaient pas de sérieuses raisons de se battre. Le risque se trouvait dans les incertitudes de la situation politique, économique et sociale, surtout dans l'Europe ruinée, qui sembla empêcher la formation d'une division stable du monde entre les deux superpuissances. Que la révolution sociale en Europe ne franchirait pas la ligne de démarcation sur laquelle Roosevelt, Churchill et Staline s'étaient à peu près mis d'accord avant la fin de la guerre, ce fut déjà évident en 1945, car l'URSS fit tout pour décourager les projets dans ce sens au-delà du territoire reconnu comme sa zone d'influence. Cependant, entre 1945 et 1948, il devint encore plus évident qu'il n'y avait pas de place sur l'ordre du jour de l'Europe occidentale libérée pour les bouleversements révolutionnaires. En Europe, au moins, désormais, il ne s'agit plus de la survie d'un système politique et économique en crise profonde, d'une lutte à vie et à mort. La bombe de l'après-guerre a été désamorcée. Sauf pour les prédicateurs des croisades, la guerre froide, c'est la coexistence de deux superpuissances méfiantes, de forces très inégales, mais qui, quand même, avaient l'intérêt commun de ne pas laisser déraper hors de contrôle une situation mondiale imprévisible et pleine de dangers. Car si l'Europe se révéla stable, ce ne fut pas le cas des régions habitées par le gros du genre humain en Asie, Afrique et même en Amérique latine. L'Europe se stabilisa en rapidité grâce à la solidité de ses structures et infrastructures sociales et institutionnelles héritées du XIXe siècle, grâce aux énormes réserves des forces productives d'une région très développée, qui est jusqu'alors peut-être la plus riche du monde, et grâce au potentiel de l'économie capitaliste. Mais ce fut un capitalisme profondément réformé et remanié qui réussit à se restructurer pour surmonter son ère des catastrophes. Traumatisés par la grande crise des années 30, les gouvernements partout abandonnèrent le libéralisme du marché libre pour des économies mixtes, manœuvrées, dirigées, même planifiées. Les guerres mondiales avaient précipité la Russie, puis la moitié de l'Europe, hors de la société bourgeoise. La grande crise avait précipité la formidable Allemagne sous Hitler hors de la civilisation humaine. Effrayés par le danger de pareille radicalisation politique extrémiste, les hommes politiques du statu quo se lancèrent dans la plus ambitieuse politique sociale jamais vue sous les devises « plein emploi » et l'État-providence. Bref, le capitalisme libéral fit le sien, le programme social des mouvements ouvriers réformistes. Par peur d'être violé par la Révolution, il épouse en seconde noce la social-démocratie. Cela se révéla une alliance heureuse. À mon avis, ce fut là la base des 30 ans glorieuses d'une croissance inouïe, d'un capitalisme relativement humanisé et d'une renaissance de la stabilité sociale et politique dans les pays riches et développés. la croissance économique n'avait jamais été si rapide qu'entre 1945 et 1973. Tous les baratins du néolibéralisme actuel, toute la rhétorique de ces idéologues ne peut cacher le fait que le taux de croissance mondiale depuis le milieu des années 70 est resté nettement inférieur aux 30 glorieuses. Ce n'est que l'inégalité sociale et économique qui a cru à pas de géant depuis. Ce n'est que dans les régions en dehors des deux blocs, aux contours pas encore fixes, que la guerre froide reste un véritable combat pour l'avenir. C'est le terrain des luttes non encore achevées et des fois acharnement contestées pour la libération coloniale et, après la décolonisation, souvent pour la délimitation des nouveaux États. Ce qui explique que, à la différence de l'Europe tranquille, les armes continuent à parler, surtout en Asie, en Afrique, bien que les superpuissances, dès le début, évitent soigneusement une confrontation directe. Le contraste est saisissant. Depuis 1945, il n'y a plus de guerre sur les territoires de l'actuelle Union européenne, bien que malheureusement la guerre est revenue à notre continent depuis 1991. Mais entre 1945 et les débuts des sanglantes années 80, et je ne parle même pas des années 90, on estime déjà à 19 ou 20 millions les cadavres des guerres d'Asie et de l'Afrique, dont 9 millions dans les guerres des États-Unis autour des mers chinoises, surtout la guerre de Corée, et partie nulle après 3 ans dans les années 50, et la guerre perdue du Vietnam du 45, du 45 jusqu'à 71. Il faut ajouter que les guerres menées par intermédiaires furent tout aussi longues, meurtrières et barbares, notamment après la décolonisation en Angola et en Mozambique. Et ça, sans compter les guerres assez sérieuses en Asie du Sud et au Moyen-Orient, qui, heureusement, n'engagent pas les superpuissances. Donc, nous nous trouvons dans les régions habitées par la majorité du genre humain, bientôt connues comme le tiers-monde. Le nom choisi en fonction de la guerre froide donne une unité factice, un ensemble hétérogène de territoires et populations qui va de la Mélanésie au Mexique, de la petite Barbade au sous-continent de l'Inde, des peuples très primitifs aux héritiers des civilisations les plus anciennes. Ici, les États-Unis se trouvent face aux peuples et aux mouvements et régimes pour lesquels l'enjeu de la guerre mondiale n'avait pas été le fascisme ni l'Allemagne, mais l'impérialisme. En l'occurrence, sauf pour le Japon, principalement pratiqué par les pays anticommunistes. Donc, ici, la lutte continue. Autour des mers chinoises, les États-Unis se trouvent encore face au nouveau régime communiste, voué à continuer les libérations nationales inachevées, et ce fut ici le champ de guerre de Corée et du Vietnam. Ailleurs, il se trouve dans le monde de la décolonisation, où seuls les contre-révolutionnaires ont de la sympathie pour la puissance qui, pour des raisons de politique mondiale, est devenue l'allié et le protecteur des anciennes puissances impériales et des éléments conservateurs, et cela dans des sociétés qui ne rêvent que de la modernisation. Mais, par préférence, ils rêvent d'une modernisation sans le marché, sans le commerce libre si cher aux Américains, car ils se méfient de la substitution d'un colonialisme du capital étranger au colonialisme à l'ancienne. Ce ne sont pas des léninistes, loin de là, car, sauf en Asie orientale et sud-orientale, la faiblesse des mouvements communistes est évidente partout, presque partout dans le tiers-monde. La guerre froide ne les intéresse pas, sauf qu'elle leur permet de mettre en valeur la rivalité de Dugan. Tout de même, la sympathie de ces nouveaux régimes penche plutôt vers l'URSS que vers les États-Unis. Les Soviets, connus pour leur tradition anticoloniale et la disposition à l'aide au mouvement de libération, leur paraissent aussi un pays plus semblable au tiers-monde. Une société pauvre et arriérée, devenue puissante et dont l'économie planifiée semblait ouvrir une voie vers la modernité plus accessible que, disons, la technique de Détroit en Amérique. Parmi les nouveaux États indépendants, il y a donc peu qui ne se déclarent pas socialistes, y compris les régimes qui suppriment leur propre parti communiste. Tout le monde est socialiste, y compris le socialisme bouddhiste de la Cambodge. Tout le monde sont des socialistes. Et même pour ceux dans la sphère d'influence des États-Unis qui refusent cette étiquette dangereuse, la route vers la modernité et la richesse passe par l'État, par les commissions de planification, les ressources de base nationalisées, la protection du marché national contre le capital étranger. Les États-Unis sont mal à l'aise dans ce tiers-monde, qui, au fond, n'aime ni sa puissance, ni son système économique. Mais, malgré son poids démographique écrasant, ce ne fut pas le champ de bataille décisif de la suite lutte des superpuissances. C'est le potentiel, l'actualité économique, plutôt que la potentialité démographique qui décide. En tout cas, la croissance au tiers-monde est restée modeste jusqu'aux années 1970. Ce ne sont que les pays déjà industrialisés qui ont pleinement bénéficié du grand bond en avant de l'économie. Au milieu des années 70, par exemple, sept pays, les pays du groupe de sept industrialisés, possèdent trois quarts de tous les automobiles du monde. Ce fut donc dès 1945. Que le trou qui sépare le monde des riches du tiers-monde devient un gouffre. L'écart entre le produit brut national réel par habitant des pays les plus riches et des plus pauvres monte à la stratosphère. En 1950, c'est déjà à 19 à 1. En 71, c'est à 31 à 1. Et au milieu des années 90, d'après les calculs de Paul Béroch et aussi de la Banque mondiale, c'est à 72 à 1. Alors c'est une croissance absolument extraordinaire. Le tiers-monde reste donc un ensemble de régions où les jeux n'ont pas encore été faits, où le combat pour l'avenir continue. Et il n'est guère étonnant que c'est le tiers-monde qui est l'épicentre du troisième grand tremblement de terre sociale du XXe siècle. Les vagues de révolution après la première et après la seconde guerre sont les deux premiers. Cette nouvelle vague de révolution au milieu des années 70 met à bas le dernier empire colonial européen, celui des Portugais, les empires anciens de l'Éthiopie et surtout, à la fin de cette décennie mouvementée, l'Iran. Tous des États clients des États-Unis. Même l'Amérique, au Chili et ailleurs, lance un défi à la domination de Washington, d'ailleurs durement éprouvé à ce moment par la défaite au Vietnam. C'est donc à cette époque que la température de la guerre froide, c'est-à-dire le risque d'une guerre nucléaire, monte. Heureusement, comme la crise cubaine de 1962, les moments angoissants au début des années 80 s'apaisent. Et le dernier chapitre de la guerre froide, cette crise se révèle le début du dernier chapitre de la guerre froide. La guerre froide recouvre donc trois histoires du monde, vaguement enchevêtrées. Celle du monde dit développé, d'un capitalisme libéral en pleine renaissance, celle du tiers-monde et évidemment celle du deuxième monde, un monde communiste assez replié sur lui-même parce que vraiment le communisme ne cherche pas à s'étendre, l'agrandissement, au-delà des pays déjà conquis au milieu du siècle. Laissons à côté le cas assez aberrant de Cuba qui n'avait pas... au milieu des années 70, son étendue reste inchangée. Ce ne fut pas un monde monolithique, bien que pour presque 15 ans après 1945, il fut dominé par la puissance et les prestiges de l'URSS et les souvenirs de son chef Staline. Bien sûr, après la mort de Staline, les divergences entre l'URSS et la Chine de Mao devinrent bientôt évidentes. D'ailleurs, l'URSS était en train de sortir de l'âge de fer stalinien, de la terreur, du goulag, tandis que Mao se prépara à plonger son pays, précisément à cette époque, dans les catastrophes du grand bond en avant et de la révolution culturelle. Mais même avant la rupture entre la Chine et l'URSS, la fragilité de la région communiste en Europe fut évidente. Sécession de la Yougoslavie en 1948, révolte ouvrière en Allemagne de l'Est en 1953, agitation en Pologne, puis révolution en Hongrie en 1956, plus tard le printemps de Prague en 1968, la Pologne qui échappe à l'emprise du Parti communiste après 1980. Néanmoins, jusqu'au début des années 60, les perspectives d'un système socialiste avaient paru excellentes. Pour quelques années après la guerre, le taux de croissance des économies communistes, au fond autarchique, fut supérieur à l'Occident. Aujourd'hui, le rêve de Khrushchev d'une victoire pacifique du communisme sur le capitalisme par la supériorité économique nous paraît délirant. Mais, à l'époque, le premier ministre de la Grande-Bretagne le prit au sérieux. Et après tout, avec ses astronautes, l'URSS venait de dépasser les États-Unis dans la technologie la plus avancée. Mais ses espoirs ou ses craintes furent injustifiés. L'économie d'État du type soviétique n'avait pas réussi à générer une force de croissance autre que celle d'une économie de guerre qui fixe ses objectifs a priori et les atteint coûte que coûte. Dans notre cas, l'objectif, ce fut la construction d'une base industrielle lourde dans des pays agraires, d'ailleurs avec beaucoup de succès, mais au prix de ruiner l'agriculture russe. Bien confus très conscients de cette faiblesse. Les experts, les spécialistes dans tous les pays communistes le savaient très bien. Les réformes pour rendre l'économie plus flexible, plus performante, ne réussirent pas à faire une brèche dans le mur d'un système de commandes trop rigide. Il faut se rendre compte qu'à la différence du capitalisme, l'économie communiste n'avait pas de dynamique de croissance intrinsèque. Sauf dans le champ militaire, elle semblait même incapable d'utiliser l'innovation technoscientifique dans cette époque extraordinaire des progrès technoscientifiques. Son industrie continue sur le modèle lourd des années 1920, quand les plans avaient été conçus. C'est pour ça, enfin, vous connaissez le vieux mot que dans les années 80 du siècle passé, l'URSS avait réussi à construire la plus grande économie fin 19e siècle jamais vue. C'est pourquoi elle perd du terrain face au décollage foudroyant du capitalisme restructuré. Loin de remplacer le capitalisme, le socialisme d'État se trouve en crise économique et bientôt, dans les années 80, en crise politique qui finalement se révèle fatale. Trois mondes, trois histoires. Mais ce qui les unit, c'est le dynamisme économique foudroyant du premier monde, celui du capitalisme restructuré et de plus en plus technologisé de l'après-guerre. La logique de la recherche du plus grand bénéfice de ses entrepreneurs, la montée en flèche du marché de consommation de ses populations enrichies, tous les deux poussent l'industrialisation au-delà de ses anciennes frontières. Elle s'avance en Amérique latine, aux Indes, surtout en Extrême-Orient. Ces multinationales conquièrent ce que les fonctionnaires coloniaux viennent d'abandonner. L'industrie, aidée par la révolution des communications et des transports, se mondialise. Et ce fut un capitalisme globalisé qui ne reconnut plus de frontières, et c'est cela qui est en train de naître dans les années 70. Mais voilà, l'histoire aime l'ironie, car l'avance foudroyante du capitalisme de l'âge d'or commence à piétiner juste au moment quand l'incapacité des économies du type soviétique devient évidente et quand le tiers-monde s'insurge contre l'hégémonie américaine. À partir de 1973, la croissance ralentit. C'est le retour aux graves crises économiques, mais aussi aux crises politiques et sociales dans tous les trois mondes. Au fond, une nouvelle époque historique s'ouvre avec la première crise du pétrole et le renversement des conjonctures en 1973. Une époque assez problématique pour tout le monde, bien que fatale pour le socialisme d'État. Quel est le bilan de cette époque? Et je termine avec quelques mots là-dessus. Du côté positif, il y a la fin de la guerre froide, et donc du cauchemar d'un holocauste mondial nucléaire. Au fond, les réformateurs, finalement arrivés au pouvoir en URSS, conclure que leur économie de plus en plus boiteuse n'avait aucune chance de guérir sans se débarrasser du poids intolérable d'une mobilisation en permanence pour une guerre mondiale. Le deuxième point positif, bien sûr, c'est le recul mondial des dictatures et régimes autoritaires. Les militaires commencent à reculer aux années 60 et 80, les communistes après le mur de Berlin. Je mettrai aussi au côté positif, bien sûr, malgré ces inégalités, la redistribution mondiale de la production industrielle en faveur des grandes régions du tiers-monde qui s'est nettement accélérée depuis 1973. Évidemment, il faut aussi mettre au côté positif le progrès de la condition humaine, espérance de vie, alphabétisation et les autres composantes de l'index du développement humain construit par les Nations Unies et la Banque mondiale. Ce progrès continue sur la plus grande partie du monde, mais malheureusement pas dans les tristes régions où il y a une nette régression. Ce sont l'Afrique subsaharienne, surtout les pays éprouvés par la meurtrière Sida, et l'ancienne Union soviétique et le gros de son ancien empire. Bien que problématique, on devrait aussi compter au côté positif l'accélération vertigineuse de la révolution technoscientifique dans les dernières décennies de notre siècle, qui, par exemple, nous a donné l'Internet. Du côté négatif, il y a en premier lieu l'effondrement de l'Union soviétique, le malheureux patient qui n'a pas survécu le traitement par les médecins socialistes, réformistes et après-coup capitalistes. Il faut ajouter tout de même que le régime communiste chinois, après la mort de Mao, a réussi à surmonter ces crises sans un effondrement analogue. On ne regrette pas le trépas du régime de l'URSS, dictature mensongère, corrompue et maladroite qui bafouait la liberté intellectuelle. Mais la disparition de l'URSS, sans solution de rechange, autre que l'appel au marché libre, a été une catastrophe économique, sociale et morale pour ces peuples. Et cela continue. Ses conséquences ont été bien plus graves et durables, même en Allemagne de l'Est, que les conséquences des deux guerres mondiales l'ont été dans n'importe quel pays. 11 ans après la chute du mur de Berlin, pratiquement tous les États successeurs de l'URSS sont en désarroi et en ruine. Parmi les États successeurs des régimes communistes en Europe centrale et orientale, il n'y a que la Pologne qui enregistre une croissance économique modeste au-delà du piètre niveau de 1990. La situation dans les Balkans, ravagée par ces guerres, reste, inutile de vous le dire, des plus lamentables. Deuxième poste négatif du bilan, c'est le retour à des versions extrêmes du néolibéralisme économique après 1973, d'abord chez les idéologues, après 1980 aussi comme base de politique du gouvernement et des organismes économiques internationaux. Ce n'est pas loin d'un fondamentalisme théologique du marché libre. Cette politique d'une globalisation sans frein, selon les impératifs du capital, n'a pas réussi jusqu'à l'heure à regagner le rythme de la croissance de l'âge d'or. En revanche, elle a accéléré la concentration du capital dans les mains d'une poignée de groupes multinationaux, ou plutôt transnationaux, dont les chiffres d'affaires dépassent le produit social de nombreux pays assez importants. Elle a eu comme conséquence cette montée stratosphérique de l'inégalité économique et sociale dont j'ai parlé, et même à l'intérieur des pays. À l'heure actuelle, la moitié du genre humain vit d'un revenu inférieur à 2 dollars américains par jour, et presque le quart des êtres humains subsiste avec un revenu inférieur à 1 dollar américain par jour. De l'autre côté, les 200 personnes les plus riches jouissent d'une fortune collective qui dépasse le produit national cumulé d'un groupe de pays rassemblant plus de 40% de la population du planète. Et ici, il ne s'agit pas des grandes multinationales, mais de 200 individus comme vous et moi, à deux jambes chacun, à une bouche chacun, et par conséquent obligés à n'occuper qu'une seule chaise, à n'avaler qu'une cuillerée de caviar à la fois. Et en même temps, cette politique fit tout pour affaiblir, voire même détruire, les systèmes de sécurité et de la protection sociale qui avaient jusqu'ici fait l'orgueil des pays civilisés. Le troisième poste négatif du bilan, c'est la déstabilisation de la situation internationale après la fin de la guerre froide, aidée par une désintégration des structures des pouvoirs des États dans plusieurs continents. Il ne s'agit pas seulement du retour de la guerre aux régions ou l'effort conjugué des deux superpuissances pour éviter la catastrophe l'aurait empêché. À vrai dire, depuis la chute du mur, il n'a pas eu beaucoup d'opérations militaires internationales de grande envergure. Mais voilà une innovation du siècle qui nous a donné le génocide. Les catastrophes humaines n'ont pas besoin de grandes opérations militaires. Combien de combattants en uniforme ont perdu la vie dans les conflits armés qui suivent notre monde dans l'an 2000 ? Quelques fins de semaine sur les autoroutes de l'Europe font autant de victimes. Mais ce sont les civils qui souffrent en millions. Au moment que je vous parle, la Commission pour les réfugiés des Nations Unies, à elle seule, se charge de la subsistance de 18 millions d'êtres humains, chassés de leur foyer et cherchant un refuge quelque part. Et cet organisme estime à 50 millions le chiffre global actuel des victimes de l'inhumanité. Depuis les suites immédiates de la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas connu des chiffres comparables. Mais on ne vit pas dans les suites immédiates d'une guerre mondiale. Eh bien, ce n'est pas à l'historien en tant que tel de dresser le bilan des dernières décennies. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour ça, pour juger, que j'ai essayé de vous exposer ces éléments. C'est pour situer l'histoire, celle des événements qui font le titre des journaux, l'histoire telle que se présente chaque soir sur nos écrans, dans le cadre des forces plus profondes, puissantes, si vous me permettez la métaphore plus géologique, de l'histoire humaine. Et ce sont surtout les forces libérées pour le bien ou pour le mal, par ce nouveau rythme de l'histoire, ce déluge en permanence qui inonde notre globe depuis le milieu de notre siècle, et qui a déjà quasiment noyé 10 000 ans de l'histoire humaine. Au milieu de la faillite des vieux projets politiques de la Révolution sociale, nous sommes en train de vivre sans le savoir le bouleversement social le plus profond et le plus rapide de tous les temps. On a estimé qu'il y a 20 ans, aux années 80, le produit de la pêche océanique mondiale en 2 ans, dépassa la quantité de toute la pêche mondiale du 19e siècle. Depuis 1945, le monde est en train de devenir, pour la première fois dans l'histoire, et sur une grande partie du monde, il est déjà arrivé, un monde sans paysans. Un monde du béton et du macadam, un monde urbanisé à plus de 80%. Un monde dominé par les examens scolaires, un monde de l'émancipation féminine, un monde qui a bouleversé les relations humaines héritées d'un passé irrécupérable. Malgré tout, c'est un globe habité dans son ensemble par une humanité plus nombreuse, plus instruite, qui vit mieux et avec de plus grandes espérances que ses pairs. Bref, et là, je crois qu'il faut le dire, c'est un monde meilleur dans son ensemble. Mais c'est aussi un monde où l'humanité vit dans une nouvelle, des nouvelles incertitudes, déracinées, désorientées, naviguant les océans de l'avenir sans carte ni boussole vers une destination inconnue et troublante. Je vous remercie.
Merci, monsieur, pour votre conférence. Et dans votre livre, que le dernier, L'âge des extrêmes, qui heureusement vient d'être traduit récemment, vous avez écrit « De nos jours, la plupart des gens grandissent dans une sorte de présent permanent, sans aucun lien organique avec le passé. Après, vous ajoutez la destruction du passé, ou plutôt des mécanismes sociaux qui rattachent les contemporains aux générations antérieures, et l'un des phénomènes les plus caractéristiques et mystérieux de la fin du XXIe siècle. Donc ma question est, quelle est la cause de cette constatation? Pourquoi vous la faites comme ça? Vous pouvez nous expliquer davantage.
Il y a deux raisons que je soulignerai. D'abord, c'est évidemment dans le passé, le lien avec le passé était en grande partie familial. Marc Bloch, par exemple, n'est-ce pas, avait écrit que dans les sociétés paysannes, en général, ça ne se fait pas par père ou fils, mais par les grands-parents ou petits-fils, tandis que le père travaille dans les champs, n'est-ce pas, qui continuent la tradition, qui apprennent la tradition du passé, n'est-ce pas. La tradition passe d'une génération à l'autre. C'est plus difficile actuellement, puisque, enfin, les structures familiales et aussi le milieu dans lequel ces traditions ont fleuri, ont opéré, n'existent plus. La seconde raison, à mon avis, c'est la société de consommation, qui privilégie la satisfaction des besoins immédiats. C'est ici toute la propagande, c'est l'aujourd'hui permanent, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Enfin, ça, et voilà. Donc, ce qui était hier n'existe plus. Sauf évidemment, ça existe de temps en temps. En forme d'un mot de rétro, n'est-ce pas, comme, mais au fond, il n'existe aucune relation organique entre ce qui se vend et ce qui se propose, surtout aux jeunes, aujourd'hui, et au fond, un passé, le passé. C'est, comme on peut dire, L'idée neuve en Europe du bonheur, l'idée de la poursuite du bonheur qui a été à la base de la constitution des États-Unis, la révolution américaine, a perdu précisément enfin ses racines dans le passé. C'est curieux parce que je note moi-même, et d'ailleurs cette salle même le prouve, qu'il y a tout de même les gens veulent savoir quelque chose sur le passé.
sur leur passé personnel, sur le passé du pays, sur le passé du monde. Ils veulent se situer. Se situer, n'est-ce pas, situer le présent en relation avec le passé, il me paraît que c'est une nécessité humaine, une nécessité sociale. Et c'est la désintégration de cette espèce de réseau des relations sociales qui le rend plus difficile.
Une question là, monsieur, levez-vous s'il vous plaît.
Monsieur Hobsbawm, vous êtes considéré, je pense, comme le chef de file de l'école marxiste anglaise. Quel est donc, à votre avis, l'avenir du marxisme sur cette planète?
Voilà, c'est une double question. Le marxisme est comme un méthode de comprendre le monde. À mon avis, ça continue à fonctionner, au moins en histoire. Moi, j'ai fait mon mieux de l'utiliser. Et mon Dieu, enfin, avec un certain... Les gens le lisent au moins et croient qu'il y a des choses dedans. Ça ne s'applique pas à tous les aspects du marxisme, enfin, marxisme écrit, théorie de Marx lui-même. J'ai des réserves, par exemple, sur certains aspects de la théorie de valeur, etc. Mais enfin, laissons ça au débat des petits groupes de spécialistes marxistes. Ce qui vraiment a eu un coup très dur, c'est l'espoir qui a été celui de Marx et aussi d'autres. L'espoir d'abord d'une révolution à travers une révolution par les classes ouvrières. L'évolution économique du monde a un peu dépassé le stage dans lequel Marx vivait, où le prolétariat, la classe industrielle, ouvrière industrielle, était enfin en croissance, en énorme croissance. Nous sommes actuellement dans un état où la classe ouvrière, dans le sens de Marx, est en diminution, relative au moins. Et il y a aussi la tentative de construire un monde selon les théories de Marx qui avait été commencée par la révolution d'octobre, évidemment, n'a pas marché. Ça, c'est une faillite. Et voilà, on peut se demander si Marx lui-même aurait été en faveur de faire la révolution d'octobre, parce que la majorité des marxistes à l'époque, même en 1917, étaient plutôt contre. Ils disaient « ça, c'est pas ça, ça ne marchera pas ». Même le vieux Plekhanov, non, le fondateur du marxisme russe. Mais voilà, c'est une autre affaire. Si Marx aurait été pour ou non, ça n'a pas marché. Et je ne crois pas que cette tentative va se répéter. Ce qui subsistera du marxisme, c'est ce que, dès le début, c'était précisément la critique du capitalisme, d'une société au fond inacceptable. Actuellement, je dois le dire, il y a peu de gens à la gauche, même à la gauche, qui osent le dire, même tous les gouvernements qui se prétendent à la gauche. Le seul personnage international connu qui continue à dire que le capitalisme en tant que tel est inacceptable, c'est, je le regrette à le dire, mais c'est le pape. Oui. Eh bien, tant qu'il y a tout de même des gens qui continuent à le croire, à mon avis, il y a un avenir pour une théorie qui est basée sur la critique du capitalisme. Et pour ça, quant à ça, je crois que bien qu'il n'y aura jamais plus l'Union soviétique ni d'autres tentatives de Mengen, il y a ça. J'ajoute encore une chose, mais avec une certaine, enfin, précaution. Je crois que la traduction de Marx, la traduction politique, n'a pas seulement été la traduction de la barricade, la traduction révolutionnaire, parce que c'est aussi une tradition social-démocrate qui a été enracinée dans la pensée de Marx même. Je dois dire que même cette tradition est actuellement enfin en défensive. Ça ne marche pas bien. Mais je crois tout de même qu'il y a là une possibilité pour sauver une partie de l'héritage politique du mouvement fondé et inspiré par Marx.
Encore deux petites dernières questions, si vous le permettez. Donc, monsieur là, levez-vous, s'il vous plaît.
Oui, le pape est tellement anticapitaliste qu'on a trouvé son banquier accroché à un pont de Londres. Mais ce n'est pas sur ça que je voulais particulièrement intervenir. Je ne vais pas intervenir et contester vos thèses que vous avez si magnifiquement développées. Je ne me donnerai pas ce ridicule. Mais je voudrais intervenir sur un point spécial. Je suis profondément choqué quand j'entends que vous appelez le monde stalinien et post-stalinien toujours communiste. Alors, si vous permettez, je vous suggère de vous déstaliniser définitivement en relisant les thèses de Bruno R. Je crains que nous deux, nous sommes les seuls d'avoir entendu parler de Bruno R. Et je propose que vous repreniez le vocabulaire de Bruno R., de collectivisme bureaucratique. Ça me semble beaucoup plus convenable que d'appeler le monde post-stalinien communiste. Voilà, merci.
Enfin, je suis avec vous. Au fond, n'est-ce pas, c'était un régime qui s'est appelé régime du Parti communiste russe. Je crois que vous avez raison. Enfin, c'était un régime dont on ne voulait pas... on voulait bien que ça ne soit pas un régime communiste, mais au fond, il faut l'admettre, c'était des gens qui voulaient, dans leur façon, créer ce qu'ils croyaient être le communisme. Ce n'est pas le communisme que vous, et sans doute que moi, aurais voulu construire. Mais je trouve enfin difficile à leur nier au moins l'ambition. Et comme je le trouve impossible à nier, enfin, tout le mal qu'ils ont fait en Espagne, mais il faut aussi ajouter, et j'ai essayé à la fin de ma conférence, que la fin de cette société, avec tous ses défaits, est pire que ce qui était avant. Il faut toujours se rendre compte que ce qui existe actuellement dans cette pauvre région qui, dans le passé, a été gouvernée par ce communisme bureaucratique est pire même que ce étatisme bureaucratisé. C'est ce que la pauvre Russie où les industries construites par ce temps-là, ils n'existent plus. La pauvre Ukraine a perdu les deux tiers, dans 10 années, le deux tiers de son produit social. La Russie, la moitié. Et je ne parle même pas des pays comme la Géorgie, le Kazakhstan, les centrales. Ça a été une tragédie absolue et il faut que le monde enfin, ne l'oublie pas. Parce qu'on a tendance de dire, voilà, il y a eu des choses positives à la fin d'un régime mauvais. Oui, très bien, mais les résultats n'ont pas été positifs. dans leur ensemble.
Toute dernière question.
Bonsoir, monsieur.
Très rapide la question, s'il vous plaît.
Oui, bon, est-ce que vous ne pensez pas que la chute du mur de Berlin n'a pas été l'expression directe de la volonté autogestionnaire des peuples entre eux, ce qui serait peut-être une recherche de définition du marxisme. Merci.
C'est-à-dire, la chute du mur de Berlin est comme la fin de tous les régimes satellites de l'Europe orientale ont été une fonction de la crise de l'Union soviétique. Sans cette crise-là, elle s'aurait maintenue. Mais n'empêche que dans la grande majorité de ces pays, les peuples étaient, les régimes n'avaient aucune légitimité dans, pour leur peuple. Mais il n'était pas nécessaire de faire des révolutions, puisque le régime savait très bien, sans l'Union soviétique, sans l'aide militaire, ils étaient foutus. Il existe des possibilités. Par exemple, enfin, sûrement, le mouvement en Pologne avait été indépendant dans les années 80. C'est pour ça que la Pologne a bien réussi, parce que c'est un des rares transitions du communisme au post-communisme qui a été négocié. S'est passé en URSS, dans tous les autres pays, c'est tout simplement la dégringolade. Tandis qu'en Pologne, comme dans le monde capitaliste en Espagne francoïste, la transition d'un État mauvais à un meilleur État a été négociée pendant des années. Quand le Parti communiste polonais savait très bien qu'il avait perdu, c'était impossible de continuer comme ça, mais en même temps, quand les autres, l'Église catholique, la Solidarność, savaient très bien qu'il ne s'agissait pas simplement d'un renversement comme ça. Et finalement, donc, la Pologne a bien réussi, comme de l'autre côté, l'Espagne avait bien réussi, pour le problème de la transition. Et reste toujours le problème fondamental. Et la grande faute de tous les gens dans l'Occident a été de croire qu'il s'agissait tout simplement de libérer des gens qu'on croyait être dans une espèce de goulag international et permanent. Ce n'était pas le cas. C'était des sociétés mauvaises dans ce genre, mais des sociétés qui opérationnelles, performantes dans leur genre, et qu'on ne pouvait pas tout simplement détruire d'un coup à l'autre sans avoir une solution de rechange. C'était l'idée de dire rien, une fois détruire tout, démanteler tout, et puis le marché, la liberté feront tout. C'est pas comme ça que l'histoire se passe.
Et que je vous remercie.